Et bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, le chapitre 1 de notre aventure ensemble. Je m'ouvre le petit fichier dans lequel j'ai pris mes petites notes et c'est parti. Alors pour me présenter, je m'appelle Antoine, j'ai créé une boîte dans l'automobile il y a 6 ans, juste après mes études. J'en suis parti il y a maintenant une semaine à peu près et je me lance dans une nouvelle aventure entrepreneuriale que je documente dans ce podcast. Donc on va en parler, on parle des trucs positifs, des trucs négatifs, de ce que j'apprends. J'ai aussi une passion pour le vin, d'ailleurs, et on en reparlera sûrement dans ce podcast ou ailleurs. Et j'essaie de devenir une personne globalement bien, de faire du sport, d'être en bonne santé, et d'être bien avec les gens qui sont autour de moi. Donc, c'est parti, on va faire ça dans ce podcast. Alors, dans le précédent podcast, je vous parlais de pourquoi je mettais fin à ce podcast sur la productivité et qu'on démarre une nouvelle aventure ensemble, et je vous parlais de... qu'est-ce qu'on allait faire ensemble. Donc bah voilà, bah maintenant on exécute, on fait ce premier chapitre. J'ai ma petite bouteille d'eau à côté, donc je vais peut-être interrompre parfois l'épisode pour prendre quelques gorgées. En termes de durée, vous le verrez sur l'écran, mais je vais viser entre, je pense, une heure et demie max pour cet épisode, et pour la suite on verra si jamais j'ai besoin de papoter plus ou moins. On a trois grandes parties aujourd'hui. Je sais pas trop la forme que va prendre ce podcast. Là, on est dans l'intro, je le compte pas comme une partie. Mais donc, j'ai une partie sur un bilan un peu de ma semaine. J'ai un article sur, sur les leçons de la semaine. Et j'ai une partie sur les contenus que j'ai bien aimés pendant la semaine, les trucs que j'ai un peu écoutés ou regardés. Et voilà. Sans plus attendre, je vous propose qu'on commence. Évidemment, si ça vous plaît, partagez-le, mais bon, c'est que le chapitre 1, donc je vous en veux pas si vous mettez pas 5 étoiles, si vous le partagez pas autour de vous. C'est pas un drame, je vous saoulerai avec ça plus tard. Pour l'instant, merci beaucoup d'être avec moi et d'écouter ça me fait très plaisir. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message, en vrai, ça me fera plaisir. Donc, on commence dans la première partie, ma semaine. C'est le nombre de parties le plus éclaté de tous les podcasts d'entrepreneuriat, je pense, qu'il y a sur cette plateforme, mais bon, c'est pas très grave. Cette semaine, trois gros trucs que je veux vous partager sur ma semaine. La première semaine de création d'entreprise, un petit truc sur un side business que j'ai dans le vin, et on fera un petit bilan sportif de la semaine. Donc, sur ma nouvelle boîte. Bon, alors, je peux pas vous parler tout de suite du sujet. Je vais pas faire le mec relou, c'est pas pour vous me piquer mon idée, c'est juste qu'on est en train de signer des contrats en ce moment avec d'autres acteurs. Pour que ça se fasse, il y a toutes les raisons de penser que ça va le faire, mais tant qu'un deal n'est pas signé, c'est pas signé, donc c'est valable d'ailleurs dans le commerce comme ailleurs, donc tant que c'est pas signé, je préfère ne pas en parler publiquement, même si j'ai déjà fait ma première semaine, donc en tout état de cause, ça va se faire sans problème. Il va falloir que je fasse gaffe de pas craquer parce que je suis assez excité par cette boîte et par ce qu'on peut y faire, donc forcément j'ai envie d'en parler à tout le monde, mais je vais y aller tranquille, et je pense que la semaine prochaine on pourra en parler et je vous en dirai un peu plus sur comment ça s'est fait, sur les leçons aussi que je tire de comment ce premier deal s'est monté. Donc j'espère pouvoir vous en parler rapidement, mais cette semaine ça a été un très très gros niveau d'exécution et franchement c'était trop trop cool, à la fois avec les personnes qui sont côté tech, donc qui travaillent sur le produit, et à la fois d'un point de vue commercial. Vraiment, on a tous vraiment très très bien bossé. On a vraiment envoyé du lourd sur cette semaine, donc ça fait grave plaisir. Pour l'instant, je me retrouve plutôt bien avec les personnes qui étaient déjà en place dans l'équipe. Je pense qu'on a des valeurs qui sont plutôt alignées et qu'on va bien bosser ensemble, donc ça c'est cool. Et en gros, ce que j'ai fait, pour vous donner un peu de détails, j'ai fait rapido, c'est un plan court terme, moyen terme, long terme, sur lequel je reviendrai après puisque c'est une de mes leçons de la semaine. Mais bon, voilà, un petit plan un peu rapido de ce que je voulais faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et surtout, je me suis mis 5 priorités dans la semaine, une par jour, et bim bam boum, je les ai exécutées de malade. Donc c'était beaucoup de prises de contact en vrai avec des clients, parce que c'est vraiment le truc le plus précieux et le truc sur lequel j'ai envie de démarrer tout de suite. Un peu de travail sur la marque aussi, puisqu'on aimerait améliorer un petit peu ça, on va dire. Un peu de travail de structuration quand même. Et voilà sur ce que je peux vous dire pour l'instant. J'espère pouvoir être plus transparent avec vous à partir de la semaine prochaine, mais en tout cas, cette semaine, je suis vraiment, vraiment content du niveau d'exécution que j'ai pu avoir. Donc c'est peut-être un peu flou pour vous, mais en gros ce qui a compté pour moi c'était vraiment de prendre contact très vite avec des acteurs du marché, très vite aller tester nos offres, aller tester notre proposition de valeur, et ça le fait puisque je pars en déplacement là, à l'heure où ce podcast est sorti, je suis sûrement dans le train ou à quelques heures de prendre un train direction le sud pour quelques jours pour aller à la rencontre de nos clients. Donc, très bon niveau d'exécution et je suis grave content au-delà de l'output et de ce que j'ai pu faire pendant la semaine. Je suis très content du niveau d'intensité et je reviendrai là-dessus dans les leçons parce que moi c'est vraiment un truc qui m'excite dans l'entrepreneuriat, c'est juste de faire des choses quoi, en fait, de il y avait rien et maintenant on fait un truc et on y va quoi. Donc, méga excitant. Bientôt, je pourrai vous en dire un peu plus et vous partager un peu les dessous de tout ça et tout ce qui n'est pas confidentiel. Et je vous en dirai le plus possible. Donc, suivez ce podcast et vous aurez la suite de cette aventure entrepreneuriale qui s'annonce être une aventure entrepreneuriale de malade. Ensuite, cette semaine, alors par contre, ouais, j'ai eu une petite galère sur un side business. Donc, en gros, ça, c'est une histoire qui est assez marrante. Je reviendrai dessus plus tard, où on en parlera au détail un de ces quatre, peut-être avec Thibaut d'ailleurs, mais en gros, il y a quelques années, moi j'ai une passion pour le vin depuis toujours, et en gros, il y a un mec qui me contacte et qui dit « Salut Antoine, mon oncle fait du vin, serait cool que tu l'interviewes. » On discute et tout, et moi je deviens pote avec ce type, qui s'appelle Thibaut, donc pas avec son oncle, avec le mec qui m'a contacté, j'interview son oncle évidemment, mais bon bref. En gros, on a le même âge, on a grosso modo le même profil à l'époque. Et on se dit, tiens, ce serait cool de trouver un petit business dans le vin, un truc marrant. Alors, on a un peu regardé des trucs différents. Et en fait, à la fin, on a créé une affiche, une carte des vins de France qu'on vend sur Amazon. Et donc, c'était purement un side business. Et ça tourne plutôt pas mal, enfin voilà, je me plains pas, ça se passe bien. Alors Thibaut est parti vers d'autres aventures et il a beaucoup de succès dedans. Je vous mettrai pas les liens et tout parce que je sais pas si j'ai vraiment son autorisation et tout, mais s'il écoute ce podcast, ce sera un bon test pour voir s'il m'envoie un message pour me dire qu'il me donne son autorisation. Je l'embrasse évidemment. Et donc on crée ce business, Thibaut va faire d'autres choses, bref. Je vous passe tous les détails et en fait là j'ai une galère qui me rend un peu ouf, mais bon c'est la vie. En gros, mon stock est chez Amazon et il se trouve que j'ai un problème de KYC, donc de validation d'identité sur la plateforme, ça a pris du temps. J'ai pris du temps, je suis assez fautif sur la durée du truc. Ils m'ont dit attention, si tu valides pas, on va détruire ton stock. J'ai dit non, ne détruisez pas mon stock s'il vous plaît, mais apparemment leur service vendeur est pas capable de bien identifier ça, ou en tout cas de bien le faire remonter. Apparemment quand on écrit ne détruisez pas mon stock, c'est pas pris en compte. C'est un autre sujet. Ils ont détruit mon stock, donc bon, déjà ça c'est un peu chiant parce que du coup j'étais en galère, gestion du cash machin, il faut recommander du stock, le temps qu'on soit à nouveau en stock, on fait pas de vente et tout, donc bon, bref, et en plus là ils viennent de me demander 1500 balles pour avoir détruit mon inventaire au motif que ça engendre des frais, voilà. Donc bref, c'est pas un drame, mais juste ça me casse la tête et ça m'a rendu un peu triste, mais c'est pas grave. J'en tire quelques leçons sur lesquelles on reviendra peut-être plus tard, mais bon, en gros, j'aurais dû exécuter plus rapidement tous ces trucs de KYC et être un peu plus moteur, quoi. J'ai un peu laissé couler le truc au motif que c'est un side business et que c'est pas ma priorité. Mais à un moment donné, il faut quand même se sortir les doigts et faire les trucs, et j'aurais dû. Mais bon, c'est pas du tout un drame. Et ça va se régler, donc si vous cherchez des affiches sur le vin, attendez quelques semaines et on sera sûrement back in stock et commandez chez nous, ça nous fera plaisir. Ça me fera plaisir en fait parce qu'il n'y a que moi. Et ensuite, troisième point de la semaine. Bon, ça va, on est passé vite dessus là, ça fait à peine 10 minutes qu'on est dessus. Je pourrais presque rentrer un peu plus en détail, mais bon, dans les leçons, je pense qu'on va rentrer plus en détail, c'est un peu plus philosophique. Troisième point de la semaine, c'est le sport, l'entraînement. C'est un sujet qui est ultra important pour moi, ça fait partie de mes objectifs de vie, mais surtout de cette année, de tout niquer, d'être dans une forme impeccable. Et pour ça, j'ai plusieurs trucs. J'ai 3 séances de muscu par semaine, donc 3 séances à la salle, et j'ai un volume de course à pied à respecter, puisque je prépare le marathon de Paris qui est le 7 avril. Donc, il faut que je me bouge sur le volume de course, parce que c'est dans moins d'un mois maintenant. Et voilà pour l'instant, et après je fais un peu de triathlon, mais là c'est pas trop la saison, enfin en vrai c'est des excuses parce que je fais beaucoup de courses à pied, mais il faudrait que j'aille un peu plus à la piscine et que je refasse un peu de vélo quand même, mais ça va pas tarder avec les beaux jours qui arrivent. Mais voilà, en gros, être dans une forme impeccable, c'est quand même méga important pour moi. Et en vrai, bah, je trouve ça trop cool de faire du sport. Enfin, c'est un bon moyen de s'épanouir, de faire d'autres choses et tout ça. Donc, bref. Et donc, j'ai quelques impératifs que je respecte. Donc, 3 séances à la salle de sport, c'est validé. Et pour tout vous dire, j'ai validé ma 3e séance de salle de sport ce dimanche, juste avant d'enregistrer le podcast. Voilà. Je l'ai validé. Donc, je l'ai validé à genre 20h le dimanche. Mais c'est fait. Et surtout, ce matin, j'ai couru 30 bornes. Donc cet après-midi pour faire la séance de muscu, il fallait être. Enfin ce soir pour faire la séance de muscu, il fallait être vraiment motivé. En plus j'ai pris un train. Enfin bon, bref, je vous fais pas un dessin, mais je suis très très content. Donc les 3 séances à la salle de sport c'est validé. Le volume de course à pied est bien tenu. J'ai couru 44 km cette semaine, dont une sortie longue de 30 km ce matin avec des très très bonnes sensations. Je suis dans les temps que je peux envisager. Donc je voulais courir plus vite que ça. Ça je pense que comme tout le monde dans la vie. Mais bon bref, je me suis un peu blessé et tout ça, donc je pense que ça va être dur de tenir le rythme que je voulais tenir à la base. Je voulais rentrer le marathon en quelque chose comme 3h20, je pense que ça va pas être possible, mais vu la sortie de ce matin, je pense que le 3h45 il me paraît envisageable. Après c'est toujours pareil, il reste un mois, donc il faut pas se blesser, il faut continuer à s'entraîner, bien faire les choses, et puis le jour J il peut se passer pas mal de trucs. Mais en tout cas ça se passe bien et ça me fait penser peut-être que je pourrais vous parler de mon premier marathon un de ces quatre, parce que, ou en tout cas des émotions que j'ai pu ressentir ou quoi, ou faire un épisode un peu flashback spécial ou quoi, je sais pas si ça peut vous intéresser. Bah dites-le moi si ça vous intéresse, ou m'envoyez un petit message. Mais en gros, j'ai couru mon premier marathon l'année dernière, en novembre dernier, donc pas novembre 2023 mais novembre 2022, et j'ai fait 4h26, ce qui est pas mal, mais ce qui est pas fou non plus. Enfin, c'est un temps. Donc, c'est un temps de mec qui a voulu le finir, mais pas un temps de mec qui a vraiment géré le marathon. Et 3h45, là, je trouve qu'on. Enfin, en dessous des 4h, je trouve qu'on commence à être vraiment pas mal. Et bon, un jour, on sera en dessous des 3h, mais ça va prendre quelques années, donc soyons patients pour ça. Mais donc, voilà. Très content de ma course de ce matin et ça m'a mis bien en confiance. Je me suis éclaté pendant la course dans tous les sens. En vrai, c'était trop cool de la courir. J'ai pris du plaisir et à la fin, je me suis bien mis mal. Donc, c'est parfait. C'est tout ce qu'on aime le dimanche. Et c'est du détail, mais j'ai reçu ma paire de baskets pour le marathon. Que j'ai essayé sur une sortie courte et sur la sortie longue de ce matin, et elle est top. C'est des baskets de chez Brooks. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, vous vous en foutez sûrement, mais moi ça m'a fait trop plaisir cette semaine de recevoir mes baskets, donc je vous le partage. Et j'ai ma tenue de marathon aussi qui est présente. Je me suis acheté 2-3 trucs chez New Balance pour être BG le jour du marathon, parce que c'est cool de le finir, mais il y a des photos pendant ce marathon. Il y a des publications LinkedIn qui seront faites après le marathon, des publis Insta et tout, donc quand même être BG pendant ce truc. Et en vrai c'est pas mal. Enfin, j'ai couru avec, je suis assez content. Donc voilà, bref, je sais pas si je vous mets les liens ou pas. Enfin, on va peut-être pas tomber dans ce lifestyle là, mais vous trouverez tout seul des shorts qui sont cool et des t-shirts qui sont cool. Je suis pas inquiet. Bon voilà pour ma semaine. Donc vous l'aurez compris, en gros, très bonne semaine. Franchement, alors je voudrais faire un petit parallèle là-dessus. Je sais pas si je l'ai mis dans mes leçons de la semaine. Non, je l'ai pas mis. Donc je vais faire le parallèle maintenant. Mais en gros, je lis un bouquin de physique qui s'appelle L'univers élégant. Donc c'est un bouquin qui retrace un peu les théories récentes de la physique. Donc en gros, la relativité générale, relativité restreinte, la théorie quantique qui montre l'incompatibilité entre les deux et qui ensuite rentre dans le détail de la théorie des cordes et des supercordes. Bref, c'est un truc. Moi, ça me passionne de voir ça et enfin, je trouve ça ouf. Mais en gros, il y a un des trucs dans la relativité, c'est que le mouvement ralentit le temps. Et alors là, s'il y a des gens qui font de la physique et qui écoutent ce podcast, je pense que c'est pas trop le cas, l'audience est pas trop liée, mais m'insultez pas s'il vous plaît, parce que c'est pas du tout mon domaine d'expertise. Si vous voulez apprendre sur la physique, allez lire des livres ou parler aux gens qui connaissent. Mais en gros, si vous, c'est le dilemme des, enfin pas le dilemme, le paradoxe des jumeaux, c'est que si vous envoyez un jumeau à la vitesse de la lumière dans l'espace et vous en gardez un autre sur Terre, et ben la montre du type qui part dans l'espace, elle va ralentir, alors que par rapport à la montre du mec qui est sur Terre. Et donc quand il revient, il s'est passé, 50 ans sur Terre, donc il y a un des jumeaux qui a vieilli de 50 ans. Et le mec qui allait dans l'espace, il a vieilli de, je sais pas, 2 ans, et donc c'est un paradoxe de ouf. Et c'est un peu là-dessus que Interstellar se base avec bon, je vais peut-être pas vous spoiler, mais avec le mec qui part dans l'espace, et quand il revient, il retrouve quelqu'un de sa famille qui est maintenant beaucoup plus vieux. Et donc c'est aussi, alors j'ai lu un truc dans ce livre, c'est aussi des effets qui se passent dans la vie, genre si vous conduisez à 110 km/h ou 130, enfin bon, peu importe, en gros si vous conduisez, votre montre elle ralentit un petit peu par rapport à la montre de quelqu'un qui serait sur le bord de la route. Le truc c'est que en fait c'est des échelles qui sont tellement microscopiques qu'en fait globalement c'est maxi imperceptible. Je vais même pas vous donner des ordres de grandeur de à quel point la montre ralentit, mais enfin c'est ridicule dans notre vie quotidienne, donc en fait on s'en aperçoit pas du tout, et voilà. Mais ça m'a fait penser à un truc sur une semaine comme ça, c'est que là c'était une semaine où il y a eu beaucoup de mouvements en fait dans ma vie. J'ai fait plein de trucs, j'étais avec plein de personnes différentes, j'ai bossé vraiment pas mal. Je fais du sport, des sports différents, enfin bref, en gros c'était une semaine qui était trop cool, et parfois là je me dis putain il s'est passé qu'une semaine alors qu'en fait j'ai l'impression que ça fait un mois quoi, quasiment, et c'est ça que je kiffe. Moi je kiffe quand j'ai des semaines qui sont bien bien denses. Ça veut pas dire bien dense que de travail, qu'on s'entend, non, c'est pas de bien dense de il y a du travail mais il y a un dîner avec des potes, il y a du sport machin, mais juste on a, et il y a des moments de chill, aucun problème, mais juste voilà, moi j'aime bien avoir des semaines où il se passe des trucs, où on fait des choses, on va à droite à gauche, je sais pas, on va voir une expo, on fait un dîner, on travaille de ouf la journée machin, et en même temps on dort bien parce que le sommeil c'est important, mais voilà. Et donc je pense que le mouvement ralenti continue de ralentir le temps, perçu cette fois-ci, on n'est pas du tout dans la physique, c'est plus un truc de perception, mais voilà, quand on est en mouvement, enfin moi j'ai vraiment cette sensation de c'est cool parce que en fait t'es à la fin de la semaine et tu dis waouh, il s'est passé tellement de choses que c'est ouf. Voilà, c'est un peu philosophique, petit lien entre la physique fondamentale et la vie de d'entrepreneur. Ça fait un peu bullshit dit comme ça, c'est peut-être un peu le cas, mais voilà, c'est souvent un truc que je me dis sur le fait d'être en mouvement, de faire des trucs. Voilà. Dites-moi si vous partagez, et moi je prends une petite gorgée d'eau avant de vous parler de mes leçons de la semaine. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 leçons de la semaine, donc pas mal de trucs à vous partager là-dessus. Petite gorgée d'eau et on attaque. Ok, alors du coup la première leçon de la semaine, c'est sur l'excitation du début et sur cette citation, je crois que c'est Jeff Bezos qui disait « It's always day one », c'est toujours le premier jour. Le truc qui m'a fasciné cette semaine, c'est que en gros, là, on est en train de lancer une boîte, une entreprise. Et quand tu lances une entreprise, en fait, ta boîte mail, elle est vide. Et ton calendrier, il est vide. Il n'y a pas de... Il n'y a personne qui te contacte, qui dit « Salut Antoine, j'ai vu que tu lançais une entreprise dont tu n'as pas fait la promotion. Est-ce que je peux acheter ton produit, s'il te plaît ? Ou est-ce que je peux te filer un coup de main ?» Voilà. Donc, globalement, ta boîte mail, elle est maxi vide. Ton calendrier, il est vide. T'as pas de team ou quasiment pas de team, donc en fait, il n'y a pas besoin de faire des meetings, caler des trucs dans l'agenda. T'as pas de rendez-vous extérieur. Donc en fait, t'as entre 8 et 10 heures par jour à remuer ciel et terre pour qu'il se passe quelque chose dans ton entreprise. Et parfois, et moi ça a été mon cas, on a peut-être un peu tendance à perdre cette énergie ou cette excitation au fur et à mesure que l'entreprise qu'on a créé ou dans laquelle on travaille grossit. Et en gros, on se fait un peu avoir par un rythme qui est subi et pas par un rythme qui est créé ou qui est voulu. Et du coup, en fait, on a v'là les points récurrents dans l'agenda. On a des emails, on est bombardé d'emails de gens qui nous demandent soit de l'argent, soit du temps. On est en externe, quoi, des gens qui veulent qu'on participe à leur truc, qui veulent nous vendre des trucs, qui veulent nous parler, blabla. On est bombardé d'emails internes de gens qui veulent notre avis, des validations, blablabla. Mais on a tendance à parfois perdre un peu, moi je pense que ça a été mon cas, à perdre un peu ce truc de en fait il faut faire avancer le truc quoi, il faut faire avancer la boîte, on n'est pas là pour s'envoyer des mails en interne et s'en féliciter quoi et se faire des meetings et blablabla, on est là pour faire avancer des boîtes en fait, on est là pour créer des choses et pour faire en sorte que ça se passe bien. Donc là ça me fait trop plaisir de ressentir cette excitation, j'espère que je vais pas la perdre dans les prochaines semaines, mais je pense pas. Et en fait, tu sais, tu descends ta to-do list de la journée, donc tu t'es mis une grosse prio pour la journée, t'as d'autres tâches à faire, tu descends le truc, et en fait, t'arrives un peu à ce moment où tu te dis, tu sais, il est genre 16h, et t'es en mode, j'ai fait globalement ce qu'il y avait sur ma to-do, mais en fait, t'es pas payé à la to-do list, t'es payé à est-ce que ta boîte, elle décolle ou pas. Et t'es un peu en mode, maintenant il faut que j'envoie, il faut que je trouve des trucs à faire, il faut que j'envoie d'autres tâches, il faut que je parle à des gens, il faut que ça bombarde, quoi. Et donc, tu sais, tu dis, ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant qui a le plus d'impact pour ma boîte, qui a l'impact le plus élevé, quoi. Et en fait, tu te poses beaucoup cette question, en fait. Et je pense que c'est une question qu'il faut garder. Et en fait, le always day one, c'est un peu bullshit, tu vois, on va pas afficher ça sur nos murs. Mais le fait de se dire, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que ça a vraiment de l'impact? Je pense que c'est vraiment un truc. Et il faut pas le perdre. Il faut pas le perdre. Il faut pas le perdre quand tu travailles avec des personnes extérieures à ta boîte, avec des prestats. Il faut pas le perdre quand t'as des fonds aussi, parce que t'as vite fait de travailler pour les fonds, de leur faire des Excel dans tous les sens. Mais en fait, fondamentalement, c'est pas ce qui va rapporter de l'argent à ta boîte, ou en tout cas pas des clients. Donc ça peut être problématique. T'as vite fait de travailler avec des partenaires externes sur des stratégies de malade, mais en fait, pareil, à un moment donné, il faut faire avancer la boîte, quoi. Donc en fait, qu'est-ce qui fait avancer la boîte? C'est soit faire avancer le produit, soit vendre. Il faut dédier son temps à ça, quoi. Genre, quand on se dit, ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant qu'il y a de l'impact pour ma boîte, soit j'améliore le produit, soit je vends. Mais après, ce qu'il y a entre les deux, ok, ça y contribue, mais tu vois, c'est relatif, quoi. Alors, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, parce que genre, embaucher, ça peut faire... Je réfléchis en même temps que je parle dans ce podcast, donc vous êtes témoin de mes pérégrinations, mais c'est vrai que il y a d'autres travaux qui font avancer la boîte que juste vendre le produit, embaucher, travailler des trucs un peu de processus documentés, etc. Donc, je révise un tout petit peu mon jugement là-dessus, mais je pense qu'il y a beaucoup de bullshit. Et en gros, c'est trop cool de vivre cette excitation. Et je pense que c'est vraiment un des trucs sur lesquels se poser, une des manières de le faire. Moi, les fois où ça m'a le plus frappé, c'est qu'on prend du recul sur le truc et on dit, ok, aujourd'hui, en fait, on fait que de la strat. Genre, on se bloque une journée d'off-site pour parler de notre roadmap, de ce qu'on va faire dans les prochaines années ou dans les prochains mois. Et en fait, là, tu prends du recul et du coup, tu arrives à te dire, ok, ce qui compte vraiment, c'est si ça, j'articule ma semaine comme ça. Donc, ouais. J'espère pas perdre ça et j'espère que ça va vraiment perdurer. Ça, c'était la leçon 1, it's always day 1. Leçon numéro 2, c'est aimer la boue, love the dirt. Donc, en gros, je réfléchissais un peu sur les valeurs de la boîte que je suis en train de créer et je suis tombé sur une newsletter qui relatait un extrait de ce BG de Gary Vee qui aura marqué toute une génération. Et je pense d'ailleurs que ce sera le thème de la vidéo que je vais sortir cette semaine, c'est « We love the dirt », il faut aimer la boue. Et donc ça c'est une phrase de Gary Vee, et je pense que c'est aussi un des trucs qui m'excite le plus dans la création d'une boîte, d'une entreprise, c'est que en fait t'es maxi opérationnel en permanence en train d'essayer de faire avancer les choses, de faire ton max, de faire bouger le truc, quoi. Tu remues encore une fois ciel et terre pour faire en sorte que la boîte avance et voilà. Et donc du coup loving the dirt, c'est vraiment le truc que je vais mettre au centre. Je pense que ça fait vraiment partie de mes valeurs cardinales, de en fait faire les choses. On n'est pas là pour papoter, pour machin, on est là pour faire avancer des entreprises. On est là pour vendre, pour faire des produits qui déchirent. On est là pour aider nos clients. Et on est là pour rentrer du revenu au max. Et ça m'excite de ouf. Et donc du coup, dans les valeurs de la boîte que je vais créer, ou en tout cas dans les principes un peu, ou dans les comportements, je pense que vraiment, we love the dirt, ça va vraiment être un des trucs que j'ai envie d'intégrer, alors je sais pas encore comment je vais le tester, en entretien ou quoi, quand on va devoir recruter, ça j'ai encore un peu le temps pour définir, donc ça va, mais en tout cas c'est des comportements qui sont ultra importants pour moi. Et je voudrais vous lire peut-être un petit extrait, qui est un mix entre ce que Gary Vee a pu dire, ce que j'ai pu lire dans une newsletter et ce que j'ai pu écrire pour les valeurs de mon entreprise. Donc c'est un mix and match de tout ça, mais c'est: the dirt is doing the things that don't scale, it is calling clients, it is building things, it is testing, it is learning, the dirt is where you find gold, fall in love with it. Et ça, je trouve que c'est vraiment la leçon ultra importante, c'est que plus ta boîte grossit, plus tu vas avoir tendance à te dire « Ah non, mais moi, je fais pas les trucs opérationnels, moi, machin. » Mais en fait, c'est là où il y a de la valeur. Et d'ailleurs, j'ai un souvenir chez Open Classrooms, je sais pas trop si je peux en parler ou pas, je pense que si. Ouais, je pense que si. Donc, une de mes premières expériences professionnelles, c'était chez Open Classrooms, qui est une boîte spectaculaire dans laquelle j'ai passé des moments incroyables et j'ai appris plein de trucs, et j'en suis tous les jours reconnaissant. Et je me souviens, Pierre Dubuc, qui est le CEO d'Open Classrooms, donc pour mettre un peu de contexte, Open Classrooms, c'est une EdTech, donc une scale-up dans la formation professionnelle en ligne. Et moi, je suis arrivé juste après qu'ils aient levé 60 millions. Et donc, en gros, on est passé de 80 à 300 dans la boîte assez vite. Et je me souviens très bien, Pierre Dubuc, donc le CEO, était assis quelques desks derrière moi dans l'open space. Et en fait, je me souviens très bien appeler des clients parce qu'ils avaient des invoices qui étaient non payés. Et alors, je connaissais pas le montant des invoices, et je connaissais pas le montant, enfin les dates de décalage et tout. Mais en fait, pour moi, ça c'est un symbole qui est très fort de « We love the dirt ». C'est que Pierre, il faisait sûrement de la strat et des trucs qui étaient à des années-lumière de l'opérationnel, mais il faisait aussi des trucs. Et en fait, le symbole, c'était « S'il faut le faire, je le ferai ». Et si personne ne le fait, en fait, moi, je finirai par le faire parce que c'est important. Et donc, bah, vous comprenez bien que j'ai quand même d'autres choses à faire que de relancer des clients pour des factures. Donc, si vous voulez le faire, bah, ça m'arrange quand même. Mais in the end, je le ferai parce que c'est trop important pour l'entreprise. Et moi, bah, je pense que le faire aussi, ça envoyait un signal aux gens que lui, il mettait de l'importance là-dessus. Et voilà, et donc ça pour moi c'est un exemple de We Love the Dirt. Et j'ai commandé un livre qui s'appelle Legacy, qui est au sujet de l'équipe de rugby de Nouvelle-Zélande et les pratiques d'entraînement qu'il y a eu, donc je vous en reparlerai sûrement, mais en gros apparemment, j'ai pas tous les détails parce que j'ai juste lu ça dans le résumé, donc vraiment là j'ai aucun crédit, mais apparemment l'entraîneur faisait nettoyer les vestiaires par les joueurs les plus seniors de l'équipe, pour, I guess, leur garder les pieds sur terre, faire en sorte qu'ils s'enflamment pas, machin, et aussi sûrement pour qu'ils mettent des petits taquets aux nouveaux arrivants dans l'équipe, si jamais ils laissaient traîner leurs affaires, parce qu'ils avaient pas envie de tout nettoyer à la fin. Donc, je vous en reparlerai sûrement, mais Loving the Dirt, c'est vraiment un truc que j'ai envie de mettre au cœur de la boîte, et voilà, et de bosser avec des gens qui ont envie de faire des choses, qui ont pas peur de prendre leur téléphone, qui ont pas peur de mettre les mains dans le produit, et qui sont là pour bah vraiment pour faire un gros truc quoi. En fait, c'est pas vraiment des leçons. Je sais pas comment elle est. Le titre de ma section là, il me convient pas trop, mais bon, je trouverais peut-être mieux pour la semaine prochaine. C'est que le chapitre 1, donc presque un prélude tout ça. Troisième point, c'est on n'a pas tous le même court terme. Donc, je prends un petit peu d'eau, désolé. Enfin, je suis pas trop désolé parce qu'il faut quand même que je m'hydrate, mais voilà, pour vous, c'est un peu gênant. Bref. Donc ouais, je bossais un peu les priorités pour ma boîte en me disant, ok, qu'est-ce que je dois faire Je me suis pas trop cassé la tête, court terme, moyen terme, long terme, quoi, tu vois. En gros, qu'est-ce qui est important maintenant, qu'est-ce qui va être important, et qu'est-ce qui est cool plus tard, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que on n'a clairement pas tous le même court terme et le même moyen terme. C'est-à-dire que pour moi, le court terme, c'est une question de jours, maximum de semaines. Alors c'est qu'est-ce qu'on fait cette semaine, peut-être la semaine prochaine, slash qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, demain. Ça, c'est du court terme. Et le moyen terme, pour moi, c'est max, je pense, un trimestre. Et je pense même que mon long terme, mais alors vraiment très très long terme, je pense que c'est un an en ce moment. Et en fait, je me rends compte qu'on a clairement pas tous le même court terme et le même moyen terme. Et mon travail en tant que fondateur d'une boîte qui est très early stage, c'est de compresser toutes ces notions et qu'elles se rapprochent le plus possible des unes des autres. En fait, il faut qu'on gagne en vélocité et en rapidité d'exécution. Et donc en fait, le court terme, je peux pas accepter que le court terme soit plus qu'une semaine, et je peux pas accepter que le moyen terme soit plus que maximum un trimestre. Parce qu'en fait, on sait pas ce qu'on va faire, on n'a pas encore la vision de la suite, on connaît pas encore comment le marché répond à ce qu'on fait. Enfin, en fait, il y a plein de paramètres qui sont en dehors de notre contrôle. Donc, je peux avoir une vision qui va bien plus loin, je peux faire des business plans, machin, sur plusieurs années, ça c'est pas du tout un problème de se projeter, de tirer un peu les scénarios et tout, c'est important de le faire. Mais dans l'opération, dans la partie opérationnelle de la boîte, dans la manière d'opérer, le travail d'un founder early stage, c'est de compresser tous ces termes. Et je pense que c'est d'ailleurs le travail d'un founder, quoi qu'il arrive, avec la difficulté que quand la boîte elle grossit, parfois il y a des moments où il faut retrouver un peu de longueur parce qu'il faut pas faire de conneries, ou parce que les conneries coûtent plus cher. En fait, aujourd'hui, on fait une connerie, franchement, ça ne nous coûte rien. Enfin, je contacte un mec que j'aurais pas dû contacter, il sait pas qui je suis, il m'aura oublié après-demain, c'est pas un drame. Je fais une propale qu'on peut pas honorer demain parce qu'on a un problème, machin, bon, il y a très peu de chances que ce soit un vrai problème, même si ça entache un peu la réputation, j'aime pas trop ça. Mais c'est moins chiant de faire ça sur un client pour une unité de notre produit que de faire ça dans 2 ans pour 100 000 unités de notre produit. Donc, il y a sûrement des termes qui changent au fur et à mesure, et toutes les boîtes à des étapes différentes n'ont pas les mêmes court terme, moyen terme, long terme. Mais je suis convaincu que toute chose égale par ailleurs, comme on dit, la personne qui a le court terme le plus court et le moyen terme le plus court gagne, ou en tout cas a plus de chances de gagner versus ses compétiteurs. Et d'ailleurs, on le voit dans un domaine qui est assez médiatisé, qui est l'intelligence artificielle. Les acteurs qui prennent des positions dominantes sur le marché sont des acteurs qui ont certes beaucoup de fonds, mais qui bougent, ou en tout cas ont bougé extrêmement vite. Et d'ailleurs, c'est comme ça que OpenAI a dépassé Google, parce que Google, c'est un peu ce qui se passe en ce moment, Google a une mastodonte technocratique, bureaucratique, qui met un max de temps à réagir, alors qu'en fait, ils avaient toutes les cartes en main pour défoncer le sujet d'intelligence artificielle. C'est même eux qui ont inventé des notions fondamentales d'intelligence artificielle, de machine learning et de conversation. Et d'ailleurs, je voyais un mec qui disait le Google de 2005 aurait juste gagné l'intelligence artificielle parce qu'ils ont tous les résultats de recherche, ils ont déjà visité tous les sites web du monde entier, leurs serveurs ont toutes les données de tous les sites web du monde entier, ils ont indexé toute la recherche, ils ont tous les emails de, je vais dire une connerie, mais genre de 70% de la population, ils ont des dizaines d'heures de Google Meet, je pense, dans lesquelles ils peuvent essayer de transcribe ou d'avoir de la donnée. Donc bref, en gros, ils ont tout ce qu'il faut pour tout niquer dans l'intelligence artificielle, et en fait ils se font dépasser par OpenAI qui juste exécute et qui a rétréci ses termes et qui s'embourbe pas dans des discussions sans fin. Donc voilà, donc mon job, c'est de compresser tous ces termes, évidemment d'avoir une vision stratégique qui va au-delà, etc. Ce que j'ai, il n'y a aucun problème là-dessus, mais dans l'opération, c'est de compresser tout ça et de faire en sorte que ça aille très vite. Et je pense que ma semaine en a été un exemple, et j'espère que mes prochaines semaines en seront des exemples, et je vous tiendrai informé dans ce podcast. Je pense que ce podcast va m'aider à faire en sorte que ce soit un exemple de compression des termes, mais voilà, maxi important pour moi. Ok, quatrième point, alors ça c'est une vraie leçon, cette fois-ci, donc mon titre est un peu plus approprié pour celle-ci, et j'ai appelé ça « C'est toujours dur jusqu'au chrono ». Donc je vais vous expliquer un peu d'où ça vient. En gros, depuis quelques mois, je prends des douches froides tous les jours, Donc j'essaie d'avoir une exposition volontaire au froid tous les matins. Donc je me lève, bam, douche froide. Et comme ça c'est fait, on en parle plus. Je vous parlerai peut-être de la douche froide un jour, mais bref, en gros ça a plein de bénéfices trop cool, et moi j'aime bien. Donc tous les matins, douche froide, et je mets un timer de 2 minutes. Parce que, en gros, il a été démontré que l'exposition volontaire au froid, c'est bénéfique à partir de 11 minutes par semaine. Donc moi je mets 2 minutes par jour, fois 7 jours, ça me fait 14 minutes, je suis au-dessus de la moyenne, et enfin de la dose minimale, donc c'est tout bon. Et ça me paraît être une durée qui est suffisamment dure pour que ce soit un truc difficile le matin, et en même temps qui fait que je risque pas de mourir d'hypothermie. Et en gros, je me rends compte d'un truc ces dernières semaines, c'est que c'est très dur avant de démarrer le chrono. Genre tu te lèves, tu sors du lit, t'avais chaud dans ton lit, là ça commence à aller parce qu'il commence à faire bien jour le matin, mais vas-y, t'es au mois de janvier-février, il fait noir dehors. Tu te réveilles, il fait encore noir, t'as chaud dans ton lit, dans ton appart, il fait un peu frais, et en plus de ça, tu vas aller te cogner une douche froide. Franchement, là, ça, toute cette anticipation-là, elle est méga dure. Ensuite, tu te retrouves sous la douche, tu tournes le truc, là, tu regrettes pendant 10 secondes, et après, ça va, mais ça reste difficile, quoi, genre, tu t'y fais petit à petit, mais tu souffres. Et en gros, au moment où le chrono s'arrête, donc au moment où t'as fait tes 2 minutes, où ça sonne, et bah d'un coup ça va. Et d'un coup tu pourrais presque rester sous la douche pendant 3 minutes de plus. T'es en mode attends, je me suis pas complètement bien rincé, machin. Et tu poursuis un peu. Et du coup, je pense que ça c'est transposable un peu partout. Et par exemple, dans mon run de ce matin, 30 km, franchement c'était dur jusqu'au 30e. Parce que je m'étais fixé 30. Mais j'aurais pu faire 31. J'aurais pu faire 35 même. Et je pense que je sais pas trop comment l'interpréter encore, mais je pense qu'on se met des limites qui font que c'est dur jusqu'à cette limite, mais en fait une fois qu'on a pété cette limite, on se dit ouais, franchement c'était pas si dur que ça. Et en même temps c'est important parce que cette limite c'est aussi des objectifs, donc c'est quand même quelque chose qui nous tire vers le haut si on met la bonne limite et si on prend l'habitude d'essayer de la dépasser. Donc la leçon, je dirais que c'est toujours dur jusqu'à la limite qu'on s'est imposée, et après ça devient plus facile, donc il faut pas avoir peur de passer de l'autre côté de cette limite et d'essayer d'aller chercher un petit peu plus loin et d'aller un peu après quoi. Nick Baer, qui est un des influenceurs entre guillemets que je suis, qui est un mec aux US, qui a une boîte gigantesque de compléments alimentaires et tout, qui est lui-même un grand sportif, qui était dans l'armée avant, enfin bref, il a une histoire assez stylée, mais il a une devise, c'est « Go one more ». Et en fait, je pense que ça s'applique dans quand même beaucoup, beaucoup de choses. Tu vois, on parlait un peu de muscu tout à l'heure. Si, alors tu peux être en échec, mais si tu rajoutes une répétition la semaine d'après, en disant vas-y, one more, ou un kilo, ou un poids, quoi, en gros, bah en fait, tu progresses, quoi. Et c'est là où tu tombes dans le côté de la progression. Alors il faut pas tomber dans l'extrême limite, c'est que en fait, du coup, tu peux ne jamais t'arrêter de courir parce que tu peux toujours faire un de plus. Mais ouais, je pense que c'est vraiment important d'aller de l'autre côté des limites qu'on se fixe et de push un peu plus, d'aller voir ce qui se passe. C'est pas grave de faire juste 100 mètres de plus. C'est pas grave d'appeler un client de plus, juste un, d'essayer un truc en plus. Mais ça me paraît crucial. Et en tout cas, moi, c'est un peu une leçon que je tire de cette douche froide, et c'est un truc que j'essaye d'appliquer dans la vie, bah justement, quand on court, quand je vais au sport, de manière générale, ou au travail. Juste de me dire, vas-y, arrête avec ta flemme et tout, one more. Genre, ok, t'as coché la case, vas-y, on appelle un mec en plus. Juste, tu sais quoi, juste, on target un mec sur LinkedIn, on lui envoie une invite bien qualifiée, on fait juste ça en plus. Mais en vrai c'est stylé. Et en fait, t'as non seulement la satisfaction de te dire bah j'ai coché toute ma to-do, je suis un boss, et en même temps t'as la satisfaction de te dire je suis allé au-delà. Et je pense que ça apporte beaucoup dans la discipline personnelle, dans la manière de se construire, d'être quelqu'un à la fois discipliné, mais qui a pas peur d'aller au-delà. Moi j'ai une de mes expressions, c'est je suis pas en sucre, ça va aller. Je le dis souvent avant de courir quand il pleut. Je me dis, bon, bah, c'est pas grave, je suis pas en sucre, vas-y, je vais y aller. Le jour du marathon, s'il pleut, je cours quand même. Si un jour je dois courir dans une situation délicate, je courrai, donc doesn't matter. Il pleut pas. Bref. Et donc ouais, donc aller de l'autre côté de cette limite, je pense que c'est vraiment vraiment un point important dans la discipline personnelle, dans l'estime de soi, parce que ça y contribue. Le fait de se dire, bah en fait, j'ai fait plus que ce que je devais faire. Moi les gars, quand je fais 2 minutes 30 de douche froide au lieu de 2 minutes, mais j'ai l'impression d'être un boss. Alors qu'en soi, c'est pas grand-chose, hein. Mais juste, je me dis, tu sais quoi, mon chrono, il a sonné. Ça fait ding, 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 ding. Et moi, je reste. Et c'est qui le patron, là? C'est le chrono? C'est genre, j'ai cédé au chrono ou c'est moi le boss? Et bah ça, je pense que ça aide. Et quand t'as plein de petites victoires comme ça dans la vie, en fait, tu te construis un ego, tu construis un capacité à faire des choses, à résister, une discipline quoi. Juste tu deviens un peu meilleur. Alors c'est pas ça qui va changer la face du monde, hein. C'est pas en mettant un chrono de 2 minutes de douche froide et faire 2 minutes 30 tous les jours que tu deviens le boss de fin de tout ça. Mais je pense vraiment que psychologiquement, ça contribue en tout cas à progresser et à te sentir bien. Donc voilà. Et c'est pareil quand j'appelle des clients. Quand je me dis, tu sais, le soir, quand tu fais le bilan de ta journée, tu rentres chez toi, machin, t'es quand même fatigué et tout parce que t'as envoyé au boulot. Tu penses encore à plein de trucs, tout ça. Tu fais un peu le bilan. Et là, tu te dis, putain, je devais contacter X clients. Non seulement je l'ai fait. Et le moment où j'ai fini de le faire et tout, je me suis dit, vas-y, je m'en envoie encore un en plus. Et bah, ça, franchement, c'est un sentiment de satisfaction qui est au-dessus. Et voilà, et donc ça j'espère le garder, et donc c'est toujours dur jusqu'au chrono, mais au moment où vous passez de l'autre côté du chrono, c'est une sensation qui est incroyable. Donc voilà, grande leçon pour moi, il faudrait que je le tourne de manière plus sexy et que j'en fasse des t-shirts, genre « It's hard until the chrono », enfin, bref, si vous avez des idées de t-shirts, vous me dites, histoire que je puisse lancer mon merch, non, peut-être un jour, ce serait marrant. En vrai, c'est un des trucs qui me ferait kiffer, mais bon, je pense qu'il faut d'abord que je prouve 2-3 trucs. Mais bon, ça n'enlève pas ce que je viens de vous dire, en tout cas la pertinence de mon propos sur ce que je viens de vous dire. Donc prenez ça au sérieux, le merch, c'était une manne. Ouais, 5e leçon, je prends un petit peu d'eau. Je m'hydrate beaucoup. Mais j'ai couru 30 km ce matin, je tiens à vous le rappeler. Donc, j'ai le droit d'interrompre ce podcast pour boire de l'eau. Yes, alors il faut que je vous parle d'un truc, ça va faire le mec qui a la grosse tête. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude, on me l'a déjà dit, donc rien à foutre. J'étais à une soirée samedi soir dernier, crémaillère d'un pote, et là... ça fait vraiment le mec qui va flexer. Je sais pas si je vous raconte ça ou pas. Bon, allez, si je vous le raconte. En gros... J'ai commencé un programme qui s'appelle le programme 3, qui est fait par le Raptor, qui est un programme gratuit de musculation, où vous avez 3 séances par semaine. Et franchement, j'avais jamais fait de programme. J'allais à la salle un peu comme je le sentais, quoi. J'avais mes exos, j'étais en mode « Ok, je vais faire ci ou ça », mais voilà, j'étais clairement pas carré sur la salle de sport. Et je me suis dit « Vas-y, tu sais quoi ? En vrai, quand je me regarde dans le miroir, j'ai pas des maxi résultats, on va pas se mentir. » Ce mec là, il me fait marrer, il a l'air solide, il fait un programme qui est gratuit, go tester. De toute façon, au pire, qu'est-ce que je perds? Et bah sans rigoler, je vais pas vous dire que je vis une transformation physique de zinzin, machin, mais avec ce programme, je vais 3 fois à la salle par semaine, et c'est quand même très efficace. Très honnêtement, j'ai pas encore le physique que je veux, les performances que je veux et tout, mais... Il y a quand même une transformation. Il y a des épaules, il y a des bras. Je suis content d'être en t-shirt, quoi. Tu vois, là, j'arrive en soirée, j'enlève mon pull, tu vois. Et il fait, ah, il fait un peu chaud dans l'appart, j'enlève mon pull. Hop, voilà, vous avez capté. Donc, je suis encore très très loin de ce que je veux faire, mais il y a des signes visibles de progrès et il y a un premier cran, quoi. Genre, il y a une première step. Et donc bref, je vous raconte ça parce que je vais à cette soirée, et tous mes potes, alors ils sont aussi très gentils et c'est mes potes, donc forcément ils sont comme ça, tu sais, quand tu vois tes potes, t'essaies toujours de leur faire un petit compliment quand même, voilà, enfin c'est tes potes quoi, mais vraiment, tous me disent, mec, t'es grave musclé. Bon alors, le standard était assez faible avant parce que j'étais pas musclé du tout, mais là ils me disent tous, putain mec, t'es solide. Et il y a un gars qui m'a dit un truc, et vraiment ça m'a touché, il m'a dit, quand je t'ai vu, je me suis dit qu'il fallait que je me redresse. Et alors ça m'a fait plaisir. Ça, c'était vraiment, vraiment la phrase. Et je le dis pas dans le cadre de masse musculaire, machin, des biceps et tout. C'est pas le sujet. C'est que cette phrase-là, elle a fait écho au type de personne que je veux être. Et en fait, c'est beaucoup plus profond que la rigolade là sur les épaules, le problème de muscu et tout, c'est que cette phrase-là, elle a fait écho à la personne dans 30, 40, 50 ans que je vais être. Tu vois, en fait, ce mec-là, bah, il s'est pris en main. Clairement, il n'avait pas toutes les chances de son côté. Il avait certains points positifs, des trucs un peu acquis, machin. Mais bah, il s'est pris en main, il a fait les trucs. Il est toujours allé de l'avant, il a bossé, il a fait ce qu'il fallait. C'est un mec droit. Et je vais pas dire c'est un exemple, mais en tout cas, c'est un mec respectable. Quand je le vois, je me dis, well done, quoi, tu vois. C'est un gars qu'on peut respecter. Et donc voilà. Et donc j'ai vraiment envie d'être cette personne. Et voilà. Et donc ça m'a fait grave plaisir. Et surtout, ça a mis des mots sur, je pense, un truc. Enfin, en tout cas, ça m'a fait percevoir un peu un début de tu vois, je vais pas dire de life mission ou quoi, mais en tout cas de perception de ce qui est important pour moi. Des trucs qui font partie de ce qui est important pour moi. Voilà. Donc, quand il m'a dit ça, j'étais refait. En vrai, je vais pas vous cacher. Maintenant, on lâche rien. 3 séances par semaine. Vous connaissez la chanson. Maintenant vous connaissez la chanson. Je l'ai validé cette semaine. Petit indice, hein, je le valide depuis le 2 janvier. On est début mars, ce qui veut dire que les personnes qui avaient des bonnes résolutions et qui les tiennent pas ont abandonné. Donc, je fais pas partie de ces gens-là. Je tiens ces résolutions et je compte bien m'y tenir. Donc voilà. Donc, on fera le bilan dans quelques mois ou dans quelques années. Puisque tout ça, ça prend du temps, il faut être patient, y mettre l'énergie, le temps et la concentration. Mais ça va venir. Et en tout cas, je vois des premiers résultats, donc ça fait plaisir. Et je ne peux que vous recommander ce programme. Si, comme moi, vous allez à la salle, enfin, si, comme moi à l'époque, vous allez encore à la salle, un peu les mains dans les poches, sans trop savoir ce que vous devez faire, sans trop savoir quel poids vous devez mettre, machin. Là, je peux vous dire, c'est maxi propre. Ok, dernière leçon, sixième, c'est être une machine à trouver des solutions. Alors, j'ai quelques impératifs que je tiens quasiment tous les jours, ou au-delà de tous les jours, à intervalles réguliers. Je vous en ai un peu parlé dans la première partie, mais c'est la douche froide, c'est tous les jours, ou en tout cas l'exposition au froid, tous les jours. Je dis exposition au froid parce que ça peut être un bain froid si jamais je suis dans un endroit où il y a un bain froid. Je prends à peine douche froide, je prends un bain froid, c'est un peu plus dur, c'est un peu plus cool. Mais je suis pas tous les jours dans des endroits où il y a des bains froids. Là, chez moi, c'est une douche froide, donc voilà, donc douche froide ou exposition au froid tous les jours. 10 000 pas par jour, 3 entraînements de muscu par semaine et valider le volume de course à pied et de préférence détruire mes to-do. Autant que faire se peut, ou en tout cas vraiment m'envoyer au travail, pas être là à rien foutre. Donc, 10 000 pas, douche froide, 3 entraînements, volume de course à pied, c'est quand même des trucs qui sont très tenables. En fait, il suffit de trouver le temps pour le faire, de trouver le temps, de prendre le temps, et ça va le faire. En fait, le volume de course à pied, c'est pas, j'ai pas mis une vitesse de course à pied, j'ai mis un volume. Donc ça veut dire que si je suis fatigué, je cours moins vite et je ferai le volume. Juste, ça va me prendre plus de temps. 3 entraînements de muscu, bah c'est simple. Chaque entraînement, genre, on va dire 1 heure, en gros. Il faut trouver 3 heures dans la semaine. Ok. 10 000 pas, Bon, bah, il y a déjà le fait d'essayer de marcher pour aller au travail ou mais en fait, il suffit de s'arrêter deux stations de métro plus tôt ou plus tard et les 10 000 pas, ils sont faits. On fait ça matin et soir, les 10 000 pas, ils sont quasiment faits. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des jours... Alors, bon, il y a des jours où je tiens pas ça. Alors, douche froide, c'est quand même très rare parce que c'est facile de prendre une douche froide. 10 000 pas, par exemple, bah, parfois, je le tiens pas. Ça m'arrive, je pense deux fois par mois, en fait je me suis envoyé au travail, j'étais en retard, j'y suis allé full transport, je me suis pas arrêté avant après, j'ai fait vraiment toute ma journée à bosser, j'étais assis, et voilà, et je finis la journée et je suis à 5000 pas et il est 22h et bah j'ai envie de faire une bonne nuit, demain j'ai une grosse journée machin, bon bah ça va être dur de faire les 10 000. Ça va être dur d'aller chercher 5 000 de plus. Mais par contre, je ressors et j'en fais 2 000, histoire d'approcher les 7 000. En dessous des 7 000, c'est pas envisageable comme journée. Et souvent, quasiment tout le temps, je pense 90% des cas, les 10 000 pas sont validés. 95% des cas même, les 10 000 pas sont validés. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a des impératifs comme ça, alors certes, c'est des impératifs qui sont très opérationnels, qui sont faciles à... Enfin, pas faciles à tenir, mais qui sont faciles à valider, c'est soit oui, soit non. En fait, on peut devenir des machines à trouver des solutions. C'est-à-dire que moi, quand je check ma montre et que je vois que j'ai pas fait mes 10 000 pas, et qu'il est 17h, je me dis, ok, bah vas-y, c'est pas grave, je descends à telle station, ça va me faire X milliers de pas. Après, je vais, en rentrant, je peux poser mes affaires, faut que j'aille faire des courses. Avant d'aller faire les courses, je vais faire un maxi détour pour faire des pas. Ou après manger, bah, en fait, je vais sortir et je vais marcher. Et je vais manger un peu plus tôt et comme ça, je vais pouvoir aller marcher. Et en fait, quand c'est des trucs comme ça, notre cerveau, il se met en mode, il faut trouver une solution. En fait, moi, c'est des sujets qui sont pas négociables. C'est juste, je fais ça tous les jours ou à l'intervalle auquel je me suis. Et same thing pour la salle de sport, trois fois par semaine. Bon bah, cette semaine, je suis allé mardi, je pense, c'était facile, j'étais à Paris. Jeudi, j'ai pris un train exprès, quasiment, bon, en vrai, c'est juste que j'ai pas trouvé le TGV Max, mais j'étais content, j'ai pris le train d'avant, et du coup, j'avais un créneau d'une heure pour aller à la salle de sport, je suis allé dans une salle de sport que je connaissais pas, bim, je me suis envoyé, j'ai validé cette séance, et ce soir, bah là, vous voyez, ce matin, j'ai fait 30 km de course à pied, ce soir, je suis quand même allé à la salle de sport, parce que c'est trois fois par semaine. Et en fait, quand on a des impératifs comme ça, et qu'on les valide, bah c'est notre cerveau trouve des solutions. Pareil pour ce podcast, j'ai dit ok, je publie un épisode par semaine, bon et bah il faut trouver une solution, je le tourne, je l'enregistre, je le publie, je me débrouille, mais en fait il y a un moment où je trouve un créneau pour le faire et voilà. Et donc c'est difficile d'avoir beaucoup d'impératifs, je pense, ou en tout cas c'est un truc qui se construit petit à petit, mais je pense que c'est important de pas faire une croix dessus et de pas en fait, de pas diminuer en discipline. Et c'est grave dur. Et très franchement, il y a toujours cette excitation du début. Et en fait, c'est très dur de passer cette excitation. Cette excitation de « Allez, bah maintenant, je fais ça. » Et c'est comme ça que les résolutions, elles s'effondrent. Hein. C'est juste « Ah ouais, j'avais dit que je ferais ça. » voilà. Et donc, voilà. Et donc, je pense qu'il faut se mettre des impératifs et qu'il faut les suivre. Ça veut pas dire qu'il faut pas changer. Clairement, si votre impératif c'est, je sais pas, de faire un truc qui est mauvais pour la santé, bon, bah, vous rendez bien compte que c'est pas le meilleur impératif. Hein. Ou, si jamais votre impératif c'est de faire 3 séances par semaine et que de muscu et que ça porte zéro résultat, bon, alors peut-être qu'il y a d'autres facteurs, mais peut-être aussi que les 3 séances c'est soit trop, soit pas assez, ou qu'à l'intérieur elles sont pas bien architecturées, organisées. Donc voilà. Et le fait d'avoir ces impératifs, ça permet aussi de pouvoir mesurer des trucs qui dépendent pas de ce facteur-là. Ce que je veux dire par là, c'est que, je vais continuer de prendre la muscu comme exemple. Je suis désolé. En plus, je suis vraiment pas le mec le plus galbé et tout. Donc, je suis pas le mec le plus légitime du podcast game pour faire un podcast de muscu. J'espère que Apple Podcast va pas me recatégoriser podcast muscu, mais En fait, si tu fais tes 3 séances par semaine, quoi qu'il arrive, et que tu progresses pas, bah en fait, c'est pas de la faute des 3 séances. Enfin, c'est pas de la faute de ta régularité, en tout cas. C'est sûrement de la faute de ton alimentation, de la composition des séances, mais c'est sûrement pas la faute de ta régularité. Et pour prendre un autre exemple qui est peut-être un peu plus entrepreneurial, si t'as un impératif d'appeler, je sais pas, 50 clients par jour, que tu appelles ces 50 clients par jour, mais que t'atteins pas tes objectifs commerciaux, et ben en fait, c'est pas de la faute de ton volume d'appel ou de ta régularité. C'est de la faute de ton script, ou de ton marché, ou de ton produit. Mais ce sera pas de la faute de ton activité. Et donc, ça isole un paramètre d'activité, de travail, qui fait que, bah, une fois que ça s'est validé, tu peux te concentrer sur le reste. Et valider des paramètres, c'est un des éléments qui permet de résoudre une équation, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une inconnue dans le truc qui est ta régularité, ta capacité à faire l'action, et si c'est un impératif, bah, c'est plus une inconnue. Et donc, du coup, bah, en fait, t'as levé ça dans ton équation, t'as beaucoup moins d'inconnus, l'équation diminue en difficulté, et bah, petit à petit, tu peux la résoudre. Donc, je fais 50 calls par jour, ça c'est sûr. Ok, boum, validé. Je suis tel script, et j'appelle tel type de client pour tel type de produit. Ok, bon, bah, ça marche pas. Le produit, peut-être que je peux pas le changer, ou peut-être que c'est un truc comme ça, peut-être que je peux twister un peu l'offre, donc c'est une mauvaise réponse, mais peut-être que je peux twister un peu l'offre, et je continue le même volume d'appels, le même script, même marché. Ok, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Bon, bah, c'est que mon offre était pas bonne. Donc, tac, j'ai appris un truc, j'ai changé l'offre, et là, c'est bon. Et voilà. Et d'ailleurs, Hormozy, là, dans un podcast que j'écoutais, il disait un truc qui était assez intéressant. Il disait, tu dois incentiver ton équipe commerciale, enfin, tu peux incentiver ton équipe commerciale sur le volume d'appels quotidiens qu'ils font, et surtout sur le volume d'appels où ils suivent le script. Et en fait, tu leur dis, si tu suis le script d'appel, genre, tu calls X clients, tu suis le script, je te file $5 par client que t'appelles et où tu suis le script. Et en fait, tu n'incentives pas le résultat final, ou pas que le résultat final, ça veut pas dire que tu peux pas incentiver la signature, mais ça veut dire que tu incentives le volume à faire quelque chose d'identique. Et il disait, c'est bien plus facile de changer le script commercial que de devoir vraiment tout réapprendre et booster les activités et d'incentiver les signatures et machin. Donc en fait, tu as un paramètre qui est figé, et ensuite tu fais varier d'autres paramètres et tu vois le résultat que tu obtiens et tu maximises. Voilà, c'était un peu mathématique, mathématico-bullshit quand même, mais vous avez compris l'idée qu'il y a derrière ça. On est à combien de temps? Quasiment 1 heure, mais c'est pas mal. Je pense que je parle un petit peu vite, vous me direz, quand je m'entends dans le retour, je trouve que je parle peut-être un petit peu vite, mais bon, au moins, vous le mettez pas en vitesse x2, ça vous économise quelques boutons. On va passer à la dernière partie, les contenus de la semaine, les trucs que j'ai kiffé cette semaine, ou pas d'ailleurs. Et puis bon, on en aura fini. Je bois une petite gorgée d'eau et je suis à vous. Alors, cette semaine, 4 contenus que je veux vous partager. Je verrai si je vous mets les liens en commentaire ou si vous allez les trouver tout seul. Le premier, c'est le podcast sur Hermès fait par Acquired. Alors, j'écoute pas souvent ce podcast, il est dans ma liste de podcasts que j'ai follow. Je l'écoute pas souvent et en fait, j'ai vraiment kiffé. Donc, c'est un podcast qui dure 4 heures, qui est sur Hermès, où il décrypte l'histoire d'Hermès, leur organisation, les différentes business units, machin. Trop bien fait, franchement, c'est un régal. J'ai appris plein de trucs dedans, c'est ultra inspirant. C'est grave bien écrit, enfin, les mecs font vraiment des recherches de fond en comble sur le truc, et c'est maxi intéressant. Ça m'a donné envie d'aller écouter d'autres épisodes, donc je vous recommande, en tout cas je vous recommande celui sur Hermès, vraiment c'était trop cool, en plus d'être une marque qui fascine et qui est absolument magnifique. On apprend plein de choses, donc voilà, je vous spoil pas, il y a plein de trucs que j'ai envie de vous dire là-dessus, sur par exemple pourquoi est-ce que Hermès avait un packaging qui était marron et qui est devenu ensuite orange, mais vous irez écouter ce podcast, là je vous ai fait le meilleur teaser possible pour ce podcast, et c'était vraiment cool. J'ai aussi écouté une grosse partie du podcast de Lex Fridman avec Tucker Carlson, donc j'écoute pas souvent Lex Fridman du tout non plus d'ailleurs, mais ce podcast-là c'était un vrai régal, un vrai régal, non, je m'enflamme un peu là, c'est la fin d'épisode, non, c'était intéressant parce que donc Tucker Carlson, c'est un mec, c'est un journaliste de chez Fox News, donc qui est plutôt droite libérale américaine, quoi, donc c'est quand même pas mal, quoi, on va dire. Enfin, c'est quand même. Non, je vais pas rentrer dans le détail du jugement politique, mais bon, vous avez compris. Et bah, c'était grave intéressant, surtout sur la partie. Donc, Tucker Carlson, il est allé interviewer Vladimir Poutine. Il raconte quels ont été les dessous de cette interview, un peu. Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'il a ressenti et tout. Et c'est vraiment intéressant. C'est une vision du journalisme. C'est intéressant à écouter. Je vous le recommande. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans l'intro, Lex Fridman fait un parallèle entre sa vision du journalisme et la vision de Tucker Carlson. Et du coup, c'est assez cool. Et voilà. Et donc, bah, je vous le recommande. C'est évidemment, vous le prendrez comme vous voulez avec la facette de vos opinions qui vous appartient. Mais c'était cool. Enfin, moi, j'ai kiffé écouter ça. Je suis à la moitié, mais je peux déjà vous le recommander parce qu'en vrai, c'est intéressant à écouter. J'ai écouté aussi le podcast de Génération Do It Yourself, numéro 374 avec Laurent de Gourcuff. Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté de Génération Do It Yourself, ça me saoulait un peu. J'en ai beaucoup écouté à une époque, mais ouais, c'est un peu un podcast qui me saoulait. Puis ce format interview et tout, c'est plus trop ce que j'écoute en ce moment, mais de temps en temps, j'y viens, et c'est toujours un super travail. Et donc, le 374 avec Laurent de Gourcuff, c'était assez cool, où il raconte comment est-ce qu'il a acheté sa première boîte de nuit à 22 ans. Moi, j'en ai 27, et j'ai toujours pas de boîte de nuit, mais peut-être un jour. Et il raconte un peu, bah voilà, son travail, quoi. Donc, il a créé un groupe qui s'appelle Paris Society, qui a été racheté par Accor. Et il raconte, en gros, l'ouverture de resto, l'ouverture de terrasse, machin. Enfin, voilà. C'est assez cool, en vrai, à écouter. C'est une vision très business, très aventure et tout. J'aime bien ça. Et en vrai, quand j'écoute ce genre d'épisode, moi, je suis super content de l'écouter d'avoir un peu les insights de ce mec, mais je suis aussi, en fait, je me dis, tant si lui il avait fait un podcast toutes les semaines, ou s'il avait fait des vidéos YouTube petit à petit où il monte sa boîte, bah franchement ça tue, genre le contenu aurait été incroyable. Donc voilà, donc ça m'enforce dans l'idée de faire ce truc, et en même temps le podcast est très très cool, donc je vous le recommande. Quoi d'autre? Ouais, j'ai regardé quelques épisodes de l'Agence sur Netflix, évidemment. Quel bonheur. Je les déteste, mais je les adore en même temps. J'ai une relation très ambivalente avec la famille Kretz, pardon. Je crois que c'est ça. J'espère que j'ai pas mal prononcé ou je me suis pas trompé de nom de famille. Mais voilà, Valentin, Martin, Louis, Raphaël et toute la mif là, ils me régalent. Sandrine, Olivier, Majo, tout ça, c'est toujours très cool. Ça me fait toujours très rire, à la fois le côté très scripté, le on est dans l'intimité, mais en fait les scènes sont jouées, et en même temps il y a des biens qui sont trop cool. Enfin bref, c'est un truc vraiment je kiffe. Donc si vous voulez vous détendre un peu devant l'Agence, bah moi j'aime ça, ça me fait marrer, donc c'est toujours cool. Enfin, je suis toujours content en fait quand la nouvelle saison sort. Ils finissent par me manquer, ces petits loups. Et enfin, le dernier truc, je suis en train de lire en ce moment le livre 100 Million Leads de Dormozy, justement, j'en parlais un petit peu avant. En vrai, j'avais bien aimé 100 Million Offers, je trouvais qu'il y avait des perspectives intéressantes sur comment tu crées une offre, machin. Là, c'est cool, mais je reste un peu sur ma faim. J'ai un peu l'impression qu'il rentre moins dans le détail que dans son premier livre, qu'il y a un petit peu moins de valeur quand même, mais bon, j'en suis à peu près à la moitié, mais j'ai du mal à avancer dedans, en vrai, enfin, je trouve pas trop mon compte. Donc je sais pas si je vous le recommande ou pas, je pense que ça dépend de ce que vous faites et de de ce qui vous intéresse, voilà, mais bon, ce que j'aime bien avec lui en tout cas, c'est qu'il a toujours une vision très pragmatique, très opérationnelle du business, donc ça revient beaucoup à ce que je disais précédemment, mais là j'ai l'impression qu'il rentre pas assez dans le détail ou ouais, qu'il donne pas assez de points, mais son livre est quand même pas trop mal, c'est une petite lecture qui est ok. Voilà, je pense que ça dépend ce que vous faites, ça dépend à quel niveau vous en êtes. Si vous créez, je pense que si vous créez votre toute première boîte, si vous avez besoin de structuration un peu et tout, c'est pas mal. C'est un bon truc pour commencer, mais c'est pas la panacée. Voilà, les amis, voilà l'équipe. Il y a encore pas mal de travail sur ce podcast à raffiner là, le nom des parties, ce que je vous raconte précisément et tout, mais j'espère que ça vous a plu. En tout cas, ça fait une heure, donc c'est bien, on est dans la cible que je m'étais donnée en durée. C'est un peu bizarre de parler comme ça pendant une heure au micro, c'est un peu mon journal intime, ce truc. J'espère que j'ai pas dit trop de conneries, mais je pense que ça va globalement. J'ai pris des pincettes quand je disais des conneries, je me suis rattrapé un peu, donc ça va. Bah voilà, j'espère que vous allez tout déchirer cette semaine. J'espère que vous aurez vraiment une semaine qui correspond à ce que vous voulez faire, dans laquelle vous allez vous épanouir, dans laquelle vous allez faire avancer votre business, votre vie perso, votre vie de famille, dans laquelle vous allez vraiment, je sais pas trop comment dire, mais en tout cas dans laquelle vous allez kiffer. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette semaine et pour toute la suite. Si ce podcast vous a plu, dites-le moi. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, ciao.